Vous écoutez Radio Campus, il est 6h.
Depuis sa création, la mission de l'association Positive est de défendre l'idée que le travail salarié comme entrepreneurial est l'étape nécessaire et préalable pour s'insérer socialement, économiquement et durablement dans la société. La mission de l'association est d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi, quel que soit leur âge, leur genre ou leur parcours. Elle a organisé le jeudi 22 mai à Lille une cérémonie des Positive Awards Hauts-de-France. Rencontre avec Amélie, responsable régionale de l'association Positive.
Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur trois projets, donc cinq porteurs de projets, pour trois projets différents, puisqu'ils ont démontré une capacité de résilience, des initiatives intéressantes, des parcours inspirants. Et donc, c'est notre première cérémonie d'awards régionaux. Habituellement, on le faisait au national, mais là, on le fait en régional, et ils seront mis à l'honneur sur du national en 2026 pour nos 20 ans.
Vous êtes présent dans la région des Hauts-de-France ?
Sur la région des Hauts-de-France, nous avons 4 implantations, nous sommes 7, et les 4 implantations, c'est à Roubaix, à Lens, à Saint-Quentin et à Amiens.
Donc, c'est faire découvrir comment créer sa propre entreprise, c'est ça ?
Exactement. En fait, la moindre petite étincelle, la moindre petite idée peut être un sujet à creuser, à élaborer, et on va sécuriser le parcours de la personne en vérifiant qu'elle puisse continuer son projet, avancer dans son projet en toute sécurité, en toute connaissance de cause. Ce projet aboutira ou pas, mais en tout cas, la personne, elle aura remis en œuvre des savoir-faire et des savoir-être qui amélioreront son employabilité si jamais elle ne va pas jusqu'à l'immatriculation de son activité.
Et on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études.
Non, bien sûr. Il faut avoir une envie, il faut avoir un degré d'autonomie plus ou moins élevé. Nous, on va s'adapter en fait aux besoins, aux compétences ou aux freins de la personne, que ce soit des freins numériques, que ce soit le temps aussi consacré au projet ou des freins personnels autres. On va s'adapter, mais pas besoin d'avoir de compétences au départ, si ce n'est des compétences techniques du métier la plupart du temps quand on veut se lancer.
Souvent, le plus difficile, c'est de faire le premier pas.
Oui, alors pour ça, nous faisons des actions de sensibilisation et d'explication de ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce que parfois ça peut être un gros mot où on peut se dire « oh là là, c'est pas pour moi ». Eh bien nous, chez Positive, nous allons auprès du public, vraiment qui ne nous attend pas. Ça peut être sur un marché, ça peut être dans l'immeuble où les gens habitent, ça peut être évidemment lors de forums, mais là, les gens viennent pour une raison particulière. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi d'aller quand les personnes sont dans leur lieu habituel de vie, d'habitude de vie, et on va leur parler projet et leur ouvrir la porte. C'est surtout ça qui est important.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez déjà rencontrées ?
Pour nos porteurs de projets, alors ça peut être l'accès au financement, qui peut être effectivement un peu compliqué, mais il y a aussi des projets qu'on peut commencer avec peu ou pas de moyens, quitte à leur donner une envergure qui va augmenter par la suite, mais pourquoi pas tester avec peu de moyens dans un premier temps. Ça, c'est un frein qui est souvent le plus conséquent. L'accès au local, quand on a besoin d'avoir une boutique, effectivement, ça peut être aussi une problématique. Et puis, on a l'organisation, souvent pour les familles monoparentales tenues par des femmes, où là, il y a des problématiques de garde, par exemple, pour les enfants, des choses comme ça.
Il doit y avoir aussi, je pense, l'étude de marché classique.
Oui, alors c'est pas forcément le premier pas. Nous, on va se concentrer dans un premier temps sur la personne. Vraiment sur sa situation, sur ses envies, ses besoins, ses compétences, les points où elle va manquer justement parfois de compétences ou de savoir-faire. Et on va vraiment s'atteler sur toute sa posture et déjà son envie, sa motivation. Donc c'est vraiment la première étape. Et l'étude de marché, on va la désacraliser, on va leur expliquer que c'est pas si compliqué que ça. Et qu'en fait, l'étude de marché, c'est du bon sens. Voilà, c'est de réfléchir à ce qu'on veut vendre, à qui, comment, à quel prix et comment on va le faire pour que ça puisse déboucher sur quelque chose de viable, de rentable et surtout de générer des revenus, parce que l'idée c'est que la personne évidemment se sorte d'une situation de non-revenu ou de revenu précaire avec l'entrepreneuriat.
Quelle est la caractéristique du public que vous avez déjà accueilli ?
Alors, nous accueillons 60% de personnes qui habitent en quartier prioritaire de la politique de la ville. On s'attache à augmenter encore ce pourcentage puisque nous avons des outils adaptés à des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi, soit qui ont des problématiques, comme on disait précédemment. Et nous sommes à peu près à 52% de femmes, puisqu'il y a quand même effectivement beaucoup de femmes qui habitent aussi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui ont envie d'être accompagnées. On a une trentaine, à peu près 30% de jeunes aussi, de moins de 30 ans, avec cette envie de générer de l'emploi par l'entrepreneuriat.
Si on a besoin d'informations sur votre association, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Nous avons un site qui est un site national, donc positive, positive.ngo. On peut avoir il y a un formulaire de contact et puis on peut venir évidemment dans toutes nos antennes, donc à Roubaix, à Amiens, à Saint-Quentin et à Lens. On nous trouve très facilement sur tous les moteurs de recherche sur Internet.
Cindy, lauréate au Positive Award Hauts-de-France.
J'ai créé il y a 11 ans déjà une pension qui s'appelle Kitty Dogs et compagnie. Et aujourd'hui, je suis dans un projet en fait tout nouveau qui s'appelle Pet Sitter Pro, qui va permettre en fait de pouvoir mettre en relation les pensions professionnelles de garde d'animaux et les propriétaires d'animaux.
Vous avez été accompagnée durant ce projet ?
Oui, tout à fait, effectivement. J'ai été accompagnée par plusieurs acteurs, notamment Positif, qui a été très présent dans mon accompagnement, qui est toujours présent aussi en cas de besoin, enfin vraiment un simple appel, et puis il puisse répondre, que ce soit pour de la mise en relation, pour de l'accompagnement, pour des simples questions-réponses. Enfin vraiment, ils sont toujours là, à l'écoute, pour pouvoir nous soutenir et répondre à notre besoin.
À partir du moment où vous avez l'idée de créer, comment ça s'est passé ?
Alors, l'idée de créer, déjà, elle remonte à longtemps, parce qu'effectivement, d'où ma première entreprise en fait, de garde de chiens, je me suis rendu compte effectivement que depuis le Covid, les mentalités avaient changé. Et avant, les personnes cherchaient juste quelqu'un pour garder les animaux. Et après le Covid, il y a eu une vraie relation avec leur animal. Ils ont créé des liens super forts, limite comme si c'était leurs propres enfants. Et on a senti très rapidement en fait, le besoin de sécuriser la pension des animaux, du coup, pour avoir l'esprit tranquille. Donc, du coup, j'ai mûri le projet parce que passer de la simple garde d'animaux à un projet quand même beaucoup plus grand, j'avais besoin de me faire entourer justement pour pouvoir planifier un petit peu les choses. J'ai été incubée, et je le suis encore, mais pour très peu de temps à Euratechnologie. Et puis, j'ai rencontré Positif, en fait, à Euratechnologie, ce qui m'a permis aussi de pouvoir avancer progressivement sur les différents étapes de la création d'entreprise.
Et aujourd'hui, vous allez recevoir un prix.
Oui, effectivement, j'en suis vraiment très honorée et touchée. À savoir que dans le parcours d'un entrepreneur, avoir un peu de reconnaissance, c'est vraiment quelque chose d'important et de valorisant. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis présente ici.
Valentin, lauréat au Positive Award Hauts-de-France.
Notre projet a commencé avec Positive, donc à Amiens. L'idée, c'était de commencer à comprendre comment on pouvait entreprendre et quelles démarches nous allions pouvoir élaborer ensemble et comment on pouvait construire le projet, en fait.
Donc, vous êtes parti d'une idée et ensuite, ils vous ont accompagné pour arriver jusqu'à la création.
Exactement, ils nous ont accompagnés dans le développement, dans la structuration de notre projet. Ils nous ont surtout fait rencontrer les bonnes personnes qui nous ont permis justement d'avancer.
Entre le moment où vous avez eu l'idée et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous décrire quelques étapes ?
Alors oui, en fait, déjà pour essayer de structurer un peu mon propos, notre projet, c'est un projet de transport et d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. Donc, On est professionnel du médico-social à la base. Notre projet est totalement innovant parce qu'il n'existe pas encore sur le territoire même national, en tout cas sous cette forme. L'idée, c'est de pouvoir être réellement au-delà du transport d'un point A à un point B, mais de pouvoir aller au rendez-vous avec les personnes, de pouvoir leur donner accès à de l'autonomie dans le déplacement et donc de pouvoir proposer un réel accompagnement au-delà du transport, mais quelque chose d'éducatif et du développement à l'autonomie et au déplacement. Tout a commencé avec Positive. On a eu différents rendez-vous, que ce soit avec Amiens Métropole, le département, qui nous ont permis justement de viser juste, de pouvoir affiner nos objectifs et de se rendre compte des besoins du territoire. Et puis ensuite, que ce soit avec Positive ou d'autres comme Catalyse qui nous accompagne également sur Amiens, ou la BGE, qui du coup nous ont permis de rencontrer les banques, de rencontrer d'autres membres des élus du département de la Somme, qui aujourd'hui nous soutiennent et ça c'est un bel avancement.
Et aujourd'hui vous allez recevoir un prix.
Tout à fait, aujourd'hui on va recevoir un prix, donc on est très honorés et fiers d'être ici, on remercie encore Positive. On a aujourd'hui la société qui est ouverte, on attend des retours du service de l'Adréal qui nous octroie des autorisations d'exercer, donc avec des complications puisque c'est pas toujours évident d'obtenir des contacts auprès de ces services. Donc si jamais on m'entend et que on peut nous contacter, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, un grand plaisir d'être ici aujourd'hui.
Angélique, lauréate au Positive Award Hauts-de-France.
Je vais présenter mon parcours avec ce que j'ai eu avec Positive et je vais recevoir un prix pour mes compétences, ce que j'ai fait jusqu'à présent avec eux.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accompagnement qui a été fait ?
Ils m'ont aidé dans les démarches pour ouvrir mon entreprise et ils ont été aussi présents pour moi dans le après l'entreprise. Et ils m'ont accompagné jusqu'à maintenant, ils m'ont encouragé et voilà.
Et quand vous avez eu cette idée, comment ça s'est passé pour vous ?
Quand j'ai eu cette idée, il y a eu beaucoup de questionnements, me dire si je serais capable ou pas. Et Positive m'ont écouté, m'ont orienté, m'ont motivé, ils ont été à mon écoute et ils se sont mis à ma place. Et ça m'a beaucoup aidé pour en arriver où j'en suis là maintenant.
Nous étions à la remise des prix de la cérémonie des Positive Awards Hauts-de-France qui s'est déroulée à la salle des conférences du village rue des Templiers à Lille. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 MHz. Vous pouvez nous retrouver sur le web sur www.campuslille.com.
Moi, je suis l'homme. Moi, je suis l'homme qu'a vu l'homme. Moi, je suis l'homme qu'a vu l'homme, qu'a vu l'homme, qu'a vu l'homme, qu'a vu l'ours. À ce qu'il paraît, mesdames, ce monstre, cette bête infâme, s'attaque aux bien-pensants, aux croyants, aux croquants. On dit aussi, messieurs, qu'à la place de ses yeux brûlent les foyers de haine qui vous glacent, vous enchaînent. Il y a pire encore, il est si grand, si fort, qu'une simple armée de terre ne saurait le faire taire. Mais laissez-moi vous dire, au lieu que de le fuir, sortons nos bombardiers, faut le tuer. suis l'homme. Moi je suis l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Paraît qu'il est méchant, que c'est un mécréant, qu'il est sans foi ni loi, qu'il le crie sur les toits. La musique il n'aime pas, quand elle cadence le pas, il brûle les églises, comme il change de chemise. Encore on dit de lui qu'il ne vit que la nuit, qu'il a peur du grand jour, qu'il est vide d'amour. Son petit déjeuner, un flic ou un banquier, c'est un vrai fou allié, faut le tuer. Oh moi, moi je suis l'homme qui a vu l'ours. Près de la grande forêt, dans le béton, les déchets, j'élève mes troupeaux d'insignifiants agneaux. Je suis leur bienfaiteur, ils œuvrent pour mon bonheur. Pourtant, je ne supporte pas qu'on me montre du doigt. Et cet ours mal léché qui voudrait m'en montrer, moi qui les aime tant, mes agneaux, mes enfants, moi qui me suis sacrifié. Et cet ours acharné, demain c'est décidé, faut le tuer. Moi, moi je suis l'ours. Dans la grande forêt, je vis de miel de baie. Je me cache des humains, car je les connais bien. Quand leur vient un malheur, mauvais joueur, rageur, il leur faut un coupable, et c'est moi le coupable. Petit, j'étais nounours, dans le ciel, la grande ours, nounours a cajolé, plus tard a pourchassé l'humain pour mon malheur. Ce monstre prédateur veut ma peau de dindon, et c'est moi le pigeon.
Le 5 juin 2025 a eu lieu la Marche des Fiertés à Roubaix, une première pour la ville qui n'avait encore jamais organisé un tel événement. Poussée par des organisations LGBT, c'est l'élu à la mairie de Roubaix, Camille de Ruel, qui est à l'initiative de cette marche, en association avec le collectif Kif Kif, l'association J'en suis Gérest et les Césariennes, première association LGBT de Roubaix. Nous avons pu nous rendre à la marche afin de recueillir les ressentis de quelques participants vis-à-vis de cette première édition.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui qu'il y ait cette première Pride à Roubaix, donc qui est un petit peu historique au final?
Bah, moi je trouve que c'est une bonne chose, mais par contre les circonstances dans lesquelles ça a été organisé, ça laisse à désirer. Ça montre que la lutte elle est dans toutes les classes sociales, elle est dans toutes les dans tous les quartiers, que ce soit populaire ou dans les grandes villes. Il faut casser les mœurs un peu et élargir les mentalités de tout le monde.
Bah, je trouve que c'est quelque chose de normal, on est ouvert. Roubaix c'est pas une ville fermée.
Alors moi j'en ai pensé que pour une première ça allait, que il y avait assez de monde quand même, parce que pour Roubaix on pouvait penser que par rapport à la sécurité il y aurait moins de monde, mais ça a été, il y a eu du monde, ils se sont donné les moyens de quand même faire un truc correct.
Du coup, est-ce que vous pensez que ça manquait à Roubaix justement une Pride?
Bah moi je pense que ça manquait en général, ça manque en général dans la Mel, que ce soit Roubaix ou d'autres petites villes, parce qu'on connaît bien évidemment celle de Lille, mais celle des, enfin, y a pas aux alentours, et je trouve que c'est important de démocratiser ça dans toute la Mel.
Est-ce que vous avez eu des appréhensions quant au fait que c'était à Roubaix que la Pride se déroulait?
Un peu, parce que Roubaix c'est vu comme une ville qui craint, mais en fait justement, ça serait, franchement je trouve que ça serait une fierté de montrer que si la Pride se déroule bien, c'est possible de tous s'entendre.
Une marche des fiertés qui n'en serait pas vraiment une sans la présence des drag queens locales qui faisaient partie du cortège.
Alors moi c'est Labala. Donc je suis une drag queen née à Roubaix.
Bonjour, donc moi c'est Lady Cloud, je suis la créatrice et sponsor du premier concours drag Esmo de Roubaix.
Est-ce que vous pouvez me décrire un peu comment vous êtes habillée aujourd'hui?
Moi du coup je suis dans un look full simili cuir rouge avec du coup un corset, une jupe, un pantalon agrémenté de plein de ceintures, un peu dans un style bondage. Je voulais quelque chose d'un peu fashion dominatrice.
Et moi, j'ai la chance de porter la création de Jules Saumon, une pièce tout en violet que j'ai assortie de plumes de strass, un corset sur mesure. À la mairie, je réserve mon look un peu plus cabaret avec des plumes.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que drag queen roubaisienne qui est la première Pride à Roubaix?
Alors moi, au-delà d'être une drag queen, je suis un enfant né à Roubaix, j'ai fait mes études ici au collège, etc. J'ai vécu le harcèlement dans cette ville et pour moi, c'est une manière de donner de la visibilité à la communauté queer, voilà, de faire évoluer les mentalités et montrer que nous, en tant que personnes queer, on est plus que, pardonnez-moi l'expression, mais genre des folasses qui se trémoussent sur un char, mais voilà, on est des histoires, des vies, des cultures, etc. Et voilà, on veut juste exister avec notre art, avec notre, nos façons de faire famille, etc., notre amour. Et montrer voilà, qu'on existe à Roubaix, qu'on existe partout tout simplement.
Moi, pour moi ça a beaucoup de sens parce que j'ai 44 ans. Il y a 20 ans je me battais pour nos droits dans la rue, notamment le mariage pour tous. J'ai vécu à Roubaix 17 ans. Je suis le référent LGBT de l'école où je travaille. Ça avait un vrai sens d'être présent ce soir.
À titre personnel, c'est vraiment une revanche, tu vois, sur ce que j'ai pu vivre, ce que les jeunes roubaisiens peuvent encore vivre malheureusement dans les collèges et les lycées. C'est surtout important de montrer qu'à Roubaix, on est là, on existe, on est queer. Et il y a des artistes qui peuvent très bien être nés d'ici, quoi.
Nous sommes toujours en train de parler de la première marche des fiertés à Roubaix s'étant déroulée le 5 juin 2025. Malgré la pluie, le cortège s'est mis en route au départ de la gare Jean Lebas jusqu'à la mairie de Roubaix, réunissant près de 300 personnes selon la Voix du Nord. Cependant, plusieurs critiques ont été émises et revendiquées par des participants et syndicats présents au cours de la marche.
Quand tu as su que ça se déroulait à Roubaix, quelle a été ta réaction ?
Bah, au début, moi j'étais super contente et enthousiaste. Enfin, je pense qu'on l'était tous à l'idée de faire la première Pride à Roubaix. Ça veut dire quand même que la Pride s'étend, qu'on en a de plus en plus. Mais ouais, c'est quand on a vu les prises de position un peu douteuses de la mairie de Roubaix, du MoDem, qu'on s'est dit bon, est-ce que c'était un hasard ou est-ce que c'était des intentions islamophobes. Certains savaient pas trop s'il fallait venir ou pas.
Moi j'étais quand même content qu'il y ait une Pride à Roubaix. J'avoue, au début, je voulais pas venir. Parce qu'il y avait de la récupération et je trouve des biais racistes dans l'organisation de cette Pride.
C'est-à-dire ?
Dans le sens où on est à Roubaix, on sait quand même que c'est quand même une population qui est assez populaire et assez racisée avec une religion, etc. Et que je trouvais que c'était dénoué de sens de ne pas politiser la Pride dans le sens où on ne va pas dans les quartiers populaires. On invisibilise certaines personnes et je veux dire, on passe de la gare à la Grand Place qui est un quartier en pleine gentrification, un quartier bien bourgeois, bien blanc, qu'on dise les termes. Et que du coup, j'ai l'impression que c'était une récupération de la droite. De toute façon, c'est pas, je pense. Et c'est bizarre de le faire le jour de l'Aïd à 20h, un jeudi, en passant dans les quartiers où ces personnes sont invisibilisées. Et voilà.
Et pourquoi, du coup, au final, tu t'es dit, je vais venir ? On a décidé quand même de venir parce que la Pride, ça reste à nous, les LGBT. Ça a toujours été à nous et ça sera toujours à nous. Et on refuse de laisser ça aux mains de la droite, du MoDem, d'intentions racistes ou quoi que ce soit.
Bah, je me suis dit que c'est pas parce qu'il y avait une récupération qu'on peut pas venir et donner des slogans qui montrent que la droite, elle prendra jamais les Pride. Parce que je veux dire, la personne qui l'a organisée, elle est du MoDem, de la majorité présidentielle, où on a des députés qui sont clairement homophobes, accusés d'agression sexuelle, de viol, etc. Et donc, et puis il y a même un cortège de lutte qui a été organisé pour... démontrer le levier des récupérations et le levier raciste par la Pride, par la personne qui l'a organisé du coup.
Le fait que ça a été organisé pas seulement par la mairie de Roubaix mais aussi en association avec des associations LGBT comme J'en suis, j'y reste, le collectif Kif Kif, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait, on va dire, racheter un petit peu cette Pride ? Oui, quand même un peu. Après, ça reste quand même des organisations plutôt marquées dans les luttes LGBT et moins sur d'autres bords. Comme des bords antiracistes, anticapitalistes, ou voilà. Après, il y a des gens dans ces assos qui ont aussi ces positions-là, mais ces positions-là, en tant qu'association, sont moins présentes, je trouve, que d'autres associations LGBT qui vont se vouloir intersectionnelles, anticapitalistes, antiracistes, féministes.
Des critiques bien présentes et revendiquées, mais également nuancées par d'autres avis.
Nous, en fait, on a participé aux réunions, moi j'en ai fait une, d'organisation, et les gens qu'on a rencontrés, ils étaient bienveillants, etc. Ils étaient là pour justement donner de la visibilité à la communauté queer. Après, je comprends totalement qu'on n'ait pas envie que des personnes qui ont plutôt l'habitude de nous redescendre reprennent nos combats pour des raisons un peu obscures, avec des biais racistes, etc. Je suis d'accord, en fait je pense qu'il y a un consensus à faire là à Roubaix, c'était important pour moi d'être là. Après, je suis d'accord je ne suis pas d'accord avec tout ce que les personnes qui ont pu organiser, enfin voilà, avec tous les points de vue plutôt des personnes qui ont pu organiser. Mais voilà, moi je suis là pour la communauté, pour ce moment fédérateur et empli de lutte, etc.
Ouais, moi je partage son avis parce qu'on assistait à la même réunion. Et c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait cette envie-là justement de faire avancer les mœurs, que ce soit dans les médias ou au sein même de la ville, hein, avec tout ce qui peut se passer. Donc nous, on est là, on montre qu'on existe, on revendique notre existence et le reste... Fin... Ce soir, je mets le reste de côté, je profite, on est là. Moi, j'ai demandé une Pride, j'avais été à la mairie en demandant une Pride à Roubaix. Donc c'est vrai que comme je dis, je l'ai eu, maintenant je suis là, on fait la fête. Et puis, faut pas oublier que les Prides, c'est surtout politique avant tout. On est là pour revendiquer des droits, nos existences qui sont mises en danger. Donc on verra bien ce que ça donnera par la suite.
J'ai lu les critiques, j'ai tout lu. Ce qui est important, et je pense qu'il faut vraiment noter ça, c'est qu'il y a une Pride. Ok, il y a des raisons derrière, peut-être, des raisons politiques, mais il y a eu le courage d'organiser quelque chose à Roubaix.
Pour clôturer cette marche, un drag show a eu lieu au sein de la mairie de Roubaix, offrant un spectacle de plumes et de paillettes aux spectateurs. À l'issue du spectacle, nous avons pu recueillir le sentiment de l'élu ayant organisé la marche, Camille de Ruyel.
Et je pense que c'était ce qu'on voulait, en effet, que ça soit la fête, que ça soit un moment de joie. Et les moments aussi, parce que je sais qu'il y a eu des incompréhensions en marge de cette marche.
Comme lesquelles?
Par exemple, il y avait des groupes qui disaient qu'il y avait une récupération politique, etc. Et on a pu discuter aussi avec certains pour expliquer aussi que, certes, la mairie avait été à l'initiative du mouvement. Oui, la mairie a été à l'initiative, mais que c'est les associations qui ont porté le projet et qui ont tout porté, vraiment, et qui ont tout porté, qui ont porté l'organisation de la marche, le spectacle, c'est également les assos, c'est les drag shows, c'est voilà. Et c'était vraiment les assos qui ont tout porté.
Il y avait notamment le fait que les municipales sont dans un an, et donc c'est pour ça qu'on parlait de récupération politique.
Si vous voulez, moi j'ai vu une porte qui s'est ouverte, et je l'ai prise. Et que c'est un risque électoralement. Je vais vous dire, électoralement, c'est un risque. Et juste sur la date du soir, c'était vraiment par rapport à l'agenda de la ville, en fait, de trouver une date de dispo et qui dérange pas trop, parce qu'en fait, le soir, à partir de 20h, la circulation bloquée, ça va, en fait. Parce que si on la bloque un samedi après-midi, pour l'acceptation sociale, ça aurait peut-être été compliqué. Donc on a fait ce choix-là. Mais voilà, l'année prochaine, y aura moins de couacs. Voilà.
Oui, parce qu'il y avait aussi le fait que c'était l'Aïd en ce moment. Donc il y avait un truc de « Ah, est-ce que ça exclut pas un peu les queers musulmans ?»
Tout à fait. La République respecte toutes les religions, et c'est important de le dire. Et c'est important aussi que la ville appartienne à tous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
C'est ainsi que cette première marche historique et symbolique se termine dans la ville de Roubaix. Une journée qui nous rappelle que la fierté ne se limite pas à une marche, elle se vit et se revendique chaque jour et partout.
Un reportage de Aurore Eni pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Salut, c'est les Chasse-Patates sur Radio Campus.
On vous donne rendez-vous le 4 juillet au Grand Sud pour le Grand Bal des cyclistes, la veille du départ du Tour de France.
Parti avec le sourire.
Venez découvrir le tout nouveau spectacle des Chasse-Patates qui vous emmèneront tutoyer les sommets avec des invités et des surprises plein la musette.
J'ai le moral dans les soquettes.
Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur le site du Taillet, letaillierproduction.com et sur ticketmaster.fr.
Thanks.
c'est celle qui passe le mur, qui a le regard étroit, le bonheur en bas de chez soi, passe montagne dessus, l'accord parental sous le bras, le visage qui brille, faut que ça se voit. Le visage qui brille, faut que ça se voit. C'est celle qui veut plus jouer à la marelle, à l'oreiller. Prends ton bain en équation, 21h c'est fiction. Fini tes devoirs, tes fonctions. Faut que tu brilles et que ça se voit. Faut que tu brilles et que ça se voit. Si je te l'ai pas vraiment dit, alors c'est pas bien grave tout ça. Car tu sais que les mots gentils, ça aussi faut que ça se voit. Ça aussi faut que ça se voit. C'est celle qui passe le mur, qui va rejoindre son garçon. Elle n'a pas l'air, bien sûr, de pouvoir tenir ses exactions. Cache tes yeux et tes tons. Ça par contre, faut pas que ça se voit. Ça par contre, faut pas que ça se voit. Si je te l'ai pas vraiment dit, alors c'est pas bien grave tout ça. Car tu sais que les seins gentils, ça aussi, faut que ça se voit. Ça aussi, faut que ça se voit. C'est celle de la chanson, car on n'est pas, n'est pas, n'est pas un tube de toute façon. Savoir qu'on n'a pas, tant pis pour nous, mais le principal, c'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
Si je te l'ai pas vraiment dit, alors c'est pas bien grave tout ça. Pour nous, je dis tant pis, faut que ça dure et que ça se voit.
Si je te l'ai pas vraiment dit, alors
faut que ça dure et que ça se voit.
Pour nous, je dis tant pis,
faut que ça dure et que ça se voit.
Le Perchoir, c'est un tiers-lieu inclusif à Arras qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous. On découvre cet espace porté par l'association Down Up, association qui lutte pour l'autonomie de la personne en condition de handicap dans le milieu de vie le plus ordinaire possible. On découvre également les activités de ce tiers-lieu avec Clément, coordinateur et animateur de celui-ci.
Le Perchoir, c'est un tiers-lieu inclusif qui a ouvert maintenant il y a 2 mois sur Arras. Dans l'idée, c'est de proposer un espace de convivialité qui soit ouvert à la fois à notre public de Down Up, qui est principalement atteint de trisomie 21, tout en proposant aussi un espace d'accueil pour du public extérieur. L'idée, c'est de vraiment faire de la vraie inclusion et d'avoir un endroit où tous ces différentes personnes avec les différents publics puissent se retrouver pour partager des activités ensemble, donc des ateliers, des concerts, des expositions, voilà. Donc le but, c'est vraiment créer un espace ouvert à tous, par tous et pour tous. Le projet, il émane de l'association Down Up, qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années. Il y avait déjà un espace d'accueil avant ça, qui s'appelait le comptoir 21, mais qui était plutôt réservé aux adhérents de l'association. Depuis 2 ans maintenant, il y a eu une vraie volonté de s'ouvrir sur l'extérieur et de proposer cet espace aussi aux autres personnes du quartier, notamment d'Arras, etc. Donc là maintenant, ça va faire 3 mois que la nouvelle forme est opérationnelle. Et donc voilà, avec pour ambition que à partir de septembre, on soit parti pour de bon et puis qu'on ait trouvé notre fonctionnement, notre gestion, marquer un petit peu notre identité sur le quartier et par la suite un peu plus loin.
Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne concrètement au quotidien, le Perchoir ?
Le Perchoir, donc on est sur une forme bistrot, en tout cas dans la forme extérieure, parce qu'en fait le format bistrot, c'est quelque chose qui appelle à la convivialité aussi. On a tous eu nos grands-parents qui se retrouvaient sur un bout de comptoir pour échanger des moments de convivialité. Donc on a pris cette forme-là, on a fait le choix de proposer une carte sans alcool, parce qu'on trouvait ça plus en adéquation avec les valeurs qu'on souhaite défendre, montrer aussi qu'on peut s'amuser sans alcool. L'espace d'accueil ressemble vraiment à un bistrot et on propose à peu près les mêmes choses avec toujours cette volonté de mixité des publics. Le Perchoir est un projet Donup, donc Donup finance le projet, en tout cas sur la partie loyer, sur la partie salariat, etc. À terme, le but, c'est aussi de pouvoir devenir autonome et de pouvoir proposer une gestion qui soit indépendante financièrement. Mais le projet, pour l'instant, est encore au tout début, donc on a encore très peu de recul, finalement, sur comment ça va se projeter par la suite, en fait.
Et vous êtes combien de bénévoles au Perchoir, actuellement ?
Pour l'instant, on a une quinzaine de potentiels bénévoles, sachant que, en raccord avec les valeurs de l'association Donup, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des découvertes professionnelles à nos adhérents, leur apprendre des codes au niveau du travail, au niveau de comment se comporter avec un public en face de soi. La partie bénévolat, notamment avec nos adhérents, est aussi vouée, pour le coup, à pouvoir proposer une ouverture professionnelle par la suite, en fait. Le but de Donup, c'est vraiment, dans ses valeurs, depuis 40 ans, c'était de pouvoir accompagner des personnes porteuses de trisomie 21, à la fois dans des projets personnels, c'est-à-dire obtenir un appartement, vivre en autonomie, quasi-autonomie, de pouvoir avoir une vie en milieu ordinaire classique, et aussi le côté insertion professionnelle, justement, donc c'est-à-dire être en lien avec des entreprises du territoire, de pouvoir leur proposer des stages, des alternances, savoir dans quoi ils veulent aussi s'épanouir. Et donc avec le Perchoir, justement, on a cette première approche, en quelque sorte, qui va permettre à ceux qui sont intéressés par de l'accueil public, par la logistique, par de la restauration, de pouvoir découvrir ces mondes-là, et puis que nous, on puisse aussi les accompagner, justement, dans cette découverte, que ça se fasse pas directement dans un milieu ordinaire où, une entreprise doit avant tout faire du chiffre pour payer toutes les charges, les salaires, etc. Donc nous, on est vraiment dans cette approche un peu différente. On a une sorte de tremplin entre leur quotidien et puis un monde professionnel par la suite en entreprise.
Alors toi, du coup, ça fait combien de temps que tu es au Perchoir et c'est quoi un peu ton rôle ici ?
Donc moi, ça va faire 2 mois que je suis au Perchoir. Je suis arrivé en tant que coordinateur animateur de l'espace parce que bon, c'est quand même une activité à part entière qui prend du temps et de l'énergie. Donc là, étant donné que les autres salariés de l'association étaient déjà bien occupés, bon, ils ont voulu ouvrir ce poste-là. Moi, dans l'idée, c'est de pouvoir à la fois gérer les espaces parce qu'on a un espace accueil, mais on a aussi une partie team building. Donc dans l'idée, c'est de faire de l'accueil d'entreprise pour qu'ils puissent faire des réunions d'équipe en dehors de leur mur à eux, et de pouvoir faire des ateliers autour de l'inclusion. Dans l'idée, c'est aussi de pouvoir gérer les espaces, gérer les activités qu'on va proposer, enfin pouvoir coordonner un petit peu toutes les actions qu'on souhaite mettre en place sur cet endroit.
Niveau inclusion à un RAS, on en est où ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a déjà des choses mises en place ?
Alors, il y a déjà des choses mises en place, évidemment. Il y a beaucoup d'associations qui militent pour ça. Comme je disais, Donup, ça fait 40 ans qu'ils militent pour cette vie le plus classique possible pour les adhérents porteurs de trisomie 21. Après, il y a encore, évidemment, comme dans beaucoup d'autres villes, des choses encore à faire. Mais il y a une vraie... En tout cas, il y a une prise de conscience de la part de la commune. Là où on a de la chance, c'est qu'Arras est une ville quand même assez active, surtout sur ces questions d'inclusion, de mobilité, etc. Donc voilà, on est aussi acteur de ce changement et on donne des leviers, notamment à la mairie et à la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, pour que ça aille encore plus vite et apporter notre expertise sur comment les choses doivent se mettre en place pour l'avenir.
Qu'est-ce que, par exemple, il pourrait être fait pour avoir plus d'inclusion ici ?
Le plus important, c'est continuer le travail de médiation auprès des professionnels et des personnes individuelles pour montrer que, en fait, le handicap est loin d'être une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Il y a une personne que je connais qui a embauché très récemment une personne qui est en situation de handicap qui m'a fait remarquer que ça avait été un changement complet dans son entreprise et que ça avait été du positif plus. Et en fait, je pense que sur Arras, en tout cas, avec ces problématiques qui lui appartiennent, il faut continuer ce travail de médiation qu'il doit aborder depuis pas mal d'années maintenant. Et bah, en fait, que les entreprises et des bailleurs ou quoi que ce soit n'aient pas peur de se dire en fait, ça va aller.
On est toujours en compagnie de Clément, coordinateur et animateur du tiers-lieu Le Perchoir à Arras. Il nous présente les activités de ce tiers-lieu inclusif qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous.
Actuellement, l'association Donup, elle compte une quarantaine d'adhérents. Tous ne côtoient pas le perchoir de manière régulière, mais par contre, à terme, c'est aussi les inciter à prendre part à la vie du lieu, que ce soit sur de la programmation, sur du service, sur l'animation, enfin voilà. Pour l'instant, ils commencent tout doucement à s'emparer du projet et le but, c'est qu'en septembre, on ait déjà un petit noyau dur de personnes qui pourront à leur tour aussi former les nouveaux adhérents qui souhaiteraient s'investir dans le projet.
Quelles actions ont été faites depuis le début ?
Alors pour l'instant, voilà, on est encore au balbutiement, donc ça a besoin de prendre. On a eu le temps d'organiser 2-3 grands événements. Océane a organisé notamment les grandes lessives. On a organisé aussi la fête des voisins, avec vraiment cette, à ce moment-là, cette volonté de montrer qu'on était ouvert à tous, à tout le monde sur le quartier. Et après, bon, c'est des personnes qui pour l'instant passent la tête parce qu'ils se demandent ce qui se passe ici et qu'ils prennent un petit peu la température et que il se pose des questions. On a déjà pas mal de personnes qui ont osé franchir le pas et qui ont envie de devenir bénévoles au perchoir. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et puis, bah voilà, là, encore une fois, dans l'idée, c'est de continuer jusque septembre. Et qu'à partir de septembre, on ait une programmation qui soit vraiment bien construite et qu'on puisse lâcher les chevaux un bon coup.
Vous avez des projets d'événements pour les prochains mois, à partir de septembre notamment ?
Alors, dans l'idée, c'est de travailler avec des partenaires du territoire. Donc par exemple, on a des projets d'exposition en partenariat avec l'Œil du Chat qui vont changer tous les mois. On fait la première en juin là. En fait, on veut s'ancrer sur le territoire. Le but n'est pas d'aller faire le travail de ce qui se fait déjà, mais c'est travailler en partenariat avec ce qui existe déjà justement et d'être un support à action en fait. Donc là, on a par exemple des associations de la Rajoie qui vont venir ici proposer des choses et nous, on va accueillir et puis essayer de co-construire des programmes avec eux en fait.
J'ai aussi vu que vous aviez un repère café pour réparer les objets. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment ça fonctionne ?
Une personne peut arriver sur place avec un objet électronique ou non qui soit défectueux et de proposer à des personnes qui sont un petit peu bricoleurs, qui ont envie de mettre leurs mains dans les circuits électriques et électroniques, de pouvoir réparer l'objet. En fait, c'est une incitation à la non-surconsommation. Donc là, dans l'idée, c'est vraiment qu'on puisse montrer qu'on n'est pas obligé de jeter un appareil et qu'on peut le réparer. Donc, ça marche avec des bénévoles. Et alors, évidemment, on demande quand même à ce que la personne ait un minimum de bagages techniques pour pouvoir le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on peut réparer un objet plutôt que d'en acheter un nouveau et entraîner à cette surconsommation.
Et aussi, vous avez un objetothèque. C'est quoi le but et comment ça fonctionne ?
L'objetothèque a été créé en lien avec Tipeee.me, qui est un tiers-lieu qui est sur l'île. Et donc, dans l'idée, c'est de pouvoir proposer un inventaire d'objets qu'on mettra à disposition contre une adhésion à l'association. D'objets qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Par exemple, je ne sais pas, une tondeuse, c'est quelque chose qu'on utilise une fois de temps en temps. Et plutôt que l'objet soit stocké et ne serve pas, qu'elle puisse servir à une personne qui en aurait besoin au moment T. Donc encore une fois, c'est une incitation à re-réfléchir à nos modes de consommation et de pouvoir montrer qu'une mise en commun, elle est possible et de ce fait, se partager des objets, se partager des savoirs avec le Repair Café par exemple, hein, c'est aussi ça, hein, c'est montrer comment on peut réparer un objet. Donc l'objetothèque, c'est vraiment ça, c'est de la mutualisation pour des objets qui ne servent pas au quotidien.
Pour l'instant, globalement, au perchoir, vous êtes content de comment ça se passe ?
On sent un vrai intérêt de la part des personnes qui passent devant, avec tout cet effet de curiosité, évidemment, mais les personnes qui ont poussé la porte sont tous convaincus de ce qu'on souhaite porter comme valeur. Comme je le disais, on est encore au balbutiement, donc il y a encore beaucoup de choses à écrire. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les feux sont verts des retours qu'on en a. Il n'y a plus qu'à convaincre les gens de l'extérieur de oser pousser la porte et puis venir partager des moments de joie avec nous.
Vous avez encore principalement des gens atteints de trisomie 21 qui viennent et pas trop des gens de l'extérieur encore ?
Nos adhérents commencent vraiment à prendre possession de l'endroit. Les gens de l'extérieur, on va dire qu'il y a encore cette curiosité qui n'est pas encore franchie totalement. La plupart des gens qui habitent dans le quartier ont vu qu'il se passait quelque chose, mais il y a encore ce dernier pas à faire pour qu'ils puissent franchir les portes et puis venir partager un café avec nous.
C'était un entretien avec Clément, coordinateur et animateur du tiers-lieu Le Perchoir à Arras.
Il nous présentait les activités de ce tiers-lieu inclusif qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous. Vous pouvez retrouver toutes les informations du Perchoir sur leur page Facebook et aller découvrir ce lieu au 21 rue Paul-Adam à Arras. Un reportage réalisé par Léo Lagnier, montage Laura Becker pour Radio PFM.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Bonjour, je m'appelle Yanis. Quand je suis à Villeneuve-d'Ascq, j'écoute Radio Campus 106,6. Et quand je suis à New York, je vais sur www.campuslille.com.
J'étais parti sur les autoroutes pour avaler des kilomètres, voir défiler seul sur la route les stations totales par la fenêtre. Les camions se doublaient coûte que coûte, parfois quelques millimètres. Parti pour des pays froids et blancs, mais pas trop loin sur la planète. Dormir la tête posée sur le volant et les deux pieds sur la banquette. Avant, la route est longue, mais sur la carte, sur le plan, elle ne fait que quelques centimètres. Mon carnet de route est plein de déroutes, de fausses routes et de flaques de mazout. Parfois l'auto apitoiement me dit qu'il faudrait peut-être éviter que la déprime et les bons sentiments ne viennent encore traîner dans mes guêtres. Regarder les choses vraiment et maintenant, arrêter de comparer les paramètres. Dans les plaines de l'Est, les ouvriers n'ont plus la main sur la casquette. Ils ne voient plus que les usines fermées. Les riches ont trouvé la recette. Leurs amis, les babylones, ont les doigts serrés, bien collés sur la gâchette. De voir Zazat à Katmandou, Dunkerque à Barcelonnette. Pourvu que le ruban noir soit doux, pas besoin de Chevrolet Corvette. Si le sandwich triangulaire est mou, tant pis, c'est pas mon jour de fête.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I
feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.